Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avons introduit dimanche dernier, la cinquième oasis du désert. Amen. Voilà, j'ai arrivé à la cinquième leçon du désert. Je dis maintenant, on ne va plus trop parler du désert. Même si en parlant d'oasis, on parle un peu du désert. On va beaucoup plus parler maintenant des oasis. Tiens avec moi, une oasis. Une oasis. Amen. Une oasis, c'est un espace, c'est un environnement luxuriant, brillant, arrosé au milieu d'un désert. Amen. Ça peut être un jardin, une petite forêt de palmiers et autres qui apparaît au milieu d'un désert. Là où tout est aride, il y a une zone, des zones que Dieu met à part, que Dieu met en réserve, pour que ceux qui voyagent, qui traversent les déserts, puissent s'abreuver, se ressourcer dans ces zones-là qu'on appelle des oasis. Nous aussi, dans les difficultés de notre vie, qu'on peut appeler désert, Dieu installe des oasis. Alléluia. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, à des moments difficiles de la vie, il faut savoir que non loin de ces moments difficiles, juste à côté d'eux, se trouvent des temps de faveur, un rafraîchissement divin. C'est ce qu'on appelle donc, c'est ce que nous symbolisons par une oasis. Dis avec moi l'oasis. Alléluia. Et nous allons traverser pendant cette série 10 leçons, c'est-à-dire 10 oasis ou 10 formes de désert. Et chaque type d'épreuve auquel vous êtes confronté révèle. Amen. Chaque type d'épreuve révèle une gloire particulière. Vous savez, quelquefois pour faire ressortir la beauté d'un objet, la beauté d'un diamant, la beauté d'une pierre précieuse. Si vous remarquez, on va poser la pierre précieuse on va l'envelopper dans une boîte généralement de couleur noire, sombre. Et lorsque tu mets l'objet précieux sur le sombre, la brillance, la beauté de cet objet est mise en valeur, n'est-ce pas? Les étoiles paraissent brillantes parce qu'elles sont dans un ciel noir. Plus le ciel est noir, mieux on voit les étoiles. Alléluia. La Bible dit que Dieu s'entoure souvent de ténèbres, de choses, pour que l'éclat de sa lumière soit visible. Si dans ta vie, les choses semblent moins éclairées, si tu as l'impression que tout est noir dans certains domaines de ta vie, ne désespère pas parce que tu t'apprêtes à voir une étoile, une chose brillante qui va apparaître autour de toi. La gloire de Dieu et les faveurs de Dieu sont justement précédées par des environnements. On a l'impression qu'ils sont un peu sombres. Quelqu'un dit amen à la parole du Seigneur. Je t'en parle bien ton amen. Non, ton amen n'est pas un bon amen de foi. Alléluia. Alléluia. Et chaque oasis transporte une grâce, une gloire. Je ne veux pas que vous vous focalisiez sur l'épreuve en tant que telle, non. Mais que vous regardiez à la grâce, la gloire que Dieu vous accorde. C'est-à-dire lorsque vous commencez à détecter certains signes autour de vous, pouvez dire, waouh, je suis au bord d'une chose nouvelle, de quelque chose de puissant, d'une nouvelle dimension de Dieu. Les premières épreuves, lorsqu'on est privé d'un besoin primaire, pour ceux, bien sûr, qui nous prennent en marche parce que c'est une longue série. Lorsque vous êtes confronté à un besoin primaire, c'est-à-dire que vous êtes privé d'une chose indispensable à votre vie, il faut savoir que vous êtes au bord d'entrer dans la première oasis. Alléluia. La première oasis. Amen. Et nous avons cité encore plusieurs choses où vous allez découvrir une dimension de Dieu qu'on appelle Christ le rocher. Ça, c'est la troisième oasis qui se retrouve dans le troisième désert, etc. Et nous arrivons aujourd'hui donc à la cinquième oasis. Amen. Amen. Qui est glorieuse. Moi, j'aime la cinquième oasis. C'est super. Amen. Dimanche dernier, je l'ai appelé ici l'alliance de bénédiction. Dis avec moi l'alliance de bénédiction. Parle bien, je ne te sens pas. Tu m'as l'air. Alléluia. Depuis le désert 3, on a commencé à voir la gloire de Dieu. Mais la Bible dit que la gloire de Dieu se manifeste à nous de manière évolutive. La Bible dit, nous tous qui avons les regards fixés sur le Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. C'est-à-dire, à un moment donné, tu découvres une certaine gloire de Dieu, et puis après encore, tu découvres une autre gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même présent dans ta vie. Alléluia. La gloire de Dieu résume ou englobe à la fois toutes les bénédictions. Une bénédiction, c'est une faveur que Dieu te fait pour un domaine donné. Il y a environ 12 formes de bénédiction. Amen. Dieu te dit, je protégerai ta famille. C'est une bénédiction. Mais ce n'est qu'une bénédiction. Il peut dire, je protège ta famille. Et puis, s'il n'a pas parlé sur ta vie financière, par exemple, s'il ne dit pas, tu ne manqueras de rien, ta famille peut être protégée pendant que tu es vraiment dans la galère. Tu vois? Donc, tu es béni d'un côté, tu n'es pas béni d'un autre côté. Ça, c'est un problème. Maintenant, il y a 12 bénédictions. Mais Dieu est le porteur de toutes les bénédictions. Quand tu as la gloire, on n'a pas besoin de les citer. Toutes les choses qui sont incluses dans la gloire, parce que tu as Dieu même, tu as l'auteur de chaque faveur, parce qu'il est dans ta vie, elles toutes sont manifestes à la fois. Amen. Mais ce qui importe dans ta vie, ce n'est même pas la bénédiction. Une femme qui est heureuse, un homme qui est heureux avec sa femme, ce n'est pas trop la richesse ou le matériel que cette personne donne qui lui importe. C'est le fait de vivre et de prendre du plaisir d'être avec son conjoint. Amen. Les trucs, si ton mari a les moyens de te prendre une voiture, ça, ce sont des conséquences. On ne se marie pas pour la voiture. On ne cherche pas Dieu pour une bénédiction. Amen. Quand vous commencez à penser à la gloire, il faut changer votre manière d'approche de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il faut changer votre approche. L'approche de Dieu doit changer dans vos pensées. Dieu fait la différence entre ceux qui viennent vers lui pour recevoir quelque chose et ceux qui viennent vers lui pour sa personne. Ça se sent. Ça se sait. Et ils ne seront jamais traités de la même manière dans la maison de Dieu. Si tu viens vers Dieu pour le mariage, il le fait. Il sait la différence si tu viens pour te marier ou si tu viens pour sa personne. Écoute, vous convenez avec moi que vous ne serez jamais un ami de quelqu'un qui marche avec vous juste pour vous demander l'argent. Il ne peut pas être votre meilleur ami. Chaque fois que vous le rencontrez à un carrefour, frère Bernard, ça va? Tu sais que tu es mon frère. Tu es mon pote sûr, tu sais ça? Bernard dit oui. Tu peux me dépanner? Là, ça ne va pas, je dois manger 10 000 francs. Chaque fois que tu le rencontres, Bernard, mon gars! Tu dis, Bernard, oui, mon frère, comment ça va? En même temps, depuis hier, on n'a pas mangé. Tu as bien envie d'aider ton ami Gaspard. Parce que l'autre qui te demande, il s'appelle Gaspard. Non, pas Gaspard, Gasparien. Parce que peut-être il y a un gars qui s'appelle Gaspard ici. Non, non, Gaspard, c'est un bon gars. Ou bien Gasparette. Et chaque fois qu'il te demande, au fur et à mesure que tu constates que sa relation avec toi concerne les choses que tu as et non ta propre personne, tu vas te détacher de lui. Il devient une connaissance, un camarade, mais pas un ami. Pas un ami. Alors, on est tous des croyants, mais il y a certains dont la relation avec Dieu est profondément intéressée. Je veux mari, je veux travail, Dieu, je veux l'argent, je veux prospérer, je veux aller ici, je veux voyager, je veux faire. C'est-à-dire, Dieu, c'est un donneur de voyage, un donneur de mariage, un donneur d'enfants. C'est-à-dire, lui, son travail, c'est de donner, quoi. Bon, Dieu aime tout le monde. Et puis, ça là, ces choses-là, il les a. Donc, si tu insistes, tiens. Mais tu as raté l'essentiel. Tu as manqué l'essentiel. Parce que Dieu ne voulait pas que tu regardes ces choses. Il voulait que tu aies sa personne. Jésus s'est offert pour nous, pour être dans notre vie, pour être un avec nous. Alors, ces choses-là pâlissent à nos yeux. Mais ça va. C'est-à-dire que un mari qui a les moyens, c'est normal qu'il équipe sa femme d'un véhicule. C'est normal qu'il prenne une maison. Mais on ne se marie pas pour la maison. On se marie parce qu'on aime. Alléluia. Alléluia. Et parce qu'il y a l'amour, il y aura la maison, il y aura les voitures, il y aura des voyages, on va aller faire des vacances. Mais on ne se marie pas pour dire, et puis, avant de te marier, tu dis, bon, viens. Est-ce que dans notre mariage, après, il y a vacances, ensemble, on va voyager? Oui, d'accord. Est-ce que si je te marie, tu vas m'acheter une maison? Le gars dit oui ou non. S'il dit non, tu dis, ah, c'est que je ne dois pas te marier. Moi, j'ai un mari. Voilà. Appel d'offre ou bien. Je vais me marier avec toute personne capable de m'offrir une voiture, une maison. Donc tu fais ta liste. Et l'homme qui peut répondre à ça, c'est lui que tu vas épouser. Non. Et il faut faire très attention parce que les hommes ne connaissent pas notre cœur. Quelquefois, ils ne peuvent pas eux savoir qu'est-ce qui nous anime profondément. Ce n'est pas le cas de Dieu. Dieu connaît nos mobiles. Dieu connaît nos intentions. Dieu sait qui tu es. Il sait ce qui t'anime. Amen. Amen. Alors quand tu as ce type de pensée, la cinquième gloire, la cinquième oasis, la gloire dont je vais parler n'est pas accessible à toi. Tu auras des difficultés. Il faut que tu revoies le type de relation que tu as avec Dieu. C'est bien de venir à l'église, mais il faut venir avec une bonne pensée. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, la cinquième oasis, elle se manifeste comment? Elle va activer dans ta vie, comme je vous le disais dimanche dernier, ce qu'on appelle l'alliance de bénédiction. Si tu veux, la gloire aussi. C'est une forme de gloire. Mais c'est une gloire qui est rattachée à la notion d'alliance. D'alliance. Dis avec moi l'alliance. Et je vous ai expliqué la dernière fois ce que c'est que l'alliance. Une alliance est beaucoup plus forte qu'un contrat. Amen. Florence et Marie-Florence, on n'a pas signé trop de contrats. Mais dès qu'ils sont en alliance, ils ont une alliance, tout ce qui est dans la vie de Florent est dans la vie de Florence. Tout ce qui appartient à Florent appartient à Florence. Et ce qui appartient à Florence appartient à Florent. Le bonheur de Florent et le bonheur de Florence, vice-versa. Leur vie devient commune. C'est ce qu'on appelle l'alliance. Alors, le contrat, c'est stipulé, c'est marqué. Le contrat a des clauses précises dans lesquelles il intervient. Dieu traite avec nous dans une notion d'alliance. Et c'est ça qui est important. Et l'alliance de Dieu est très puissante. Elle a le propre, non seulement de toucher votre vie, de toucher vos enfants, d'influencer favorablement la vie de vos enfants. Elle a le propre d'influencer tout ce qui vous concerne. Dis avec moi l'alliance. Alléluia. Alléluia. Alors la bénédiction, ce qu'on appelle l'alliance de bénédiction, c'est la promesse divine selon laquelle vous serez particulièrement privilégié et protégé par Dieu. Celui qui rentre dans l'alliance de bénédiction, celui qui découvre cette oasis, en fait le trésor dont je suis en train de parler maintenant, c'est activé dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Le suivi ou privilégié de Dieu et la protection spéciale et spécifique de Dieu. Dis un bon amen. Amen. Dis un bon amen. Amen. Si tu t'es marié avec Jésus, si tu as donné ta vie à Jésus, tu as déjà reçu l'alliance de bénédiction. Je vous l'ai dit dimanche dernier. Celui qui est né de nouveau en Christ ne recherche pas la bénédiction. Il l'a déjà. Par contre, il doit l'activer. C'est-à-dire, tu aimes ta femme, tu lui donnes tout, tu lui offres une voiture. Elle ne s'est pas mariée pour la voiture, mais tu lui offres une voiture. Sauf que ta femme ne sait pas conduire. Bon, soit elle prend un chauffeur, ou malgré qu'elle ait une voiture, elle sera comme un piéton. Donc, je peux recevoir quelque chose, on peut t'offrir une voiture, mais si tu n'actives pas, si tu ne sais pas conduire, tu n'as pas le permis, tu vas ressembler à un piéton. Donc, tous les chrétiens nés de nouveau ont reçu de Dieu l'alliance de bénédiction. Amen. Amen. Mais beaucoup ressemblent à ceux qui n'ont pas reçu l'alliance de bénédiction parce que leur alliance de bénédiction n'est pas encore activée. Donc, ils sont propriétaires de voitures, mais ils vivent, ils marchent, ils avancent comme un piéton parce qu'ils ne savent pas utiliser la voiture qui est en leur possession. Amen. Amen. L'enjeu de la cinquième oasis, c'est d'activer cela. Un exemple dans la parole de Dieu pour que vous voyez. Dimanche dernier, on a donné l'exemple d'Abraham qui a activé l'alliance de bénédiction. Je dirais pour Abraham, on est dans l'Ancien Testament, donc il a obtenu l'alliance de la bénédiction. Amen. Parce que dans l'Ancien Testament, Christ n'était pas encore mort. Donc, les gens, la bénédiction était une promesse. Or, pour nous qui avons rencontré Jésus, la bénédiction est un acquis. Amen. Amen. Voilà comment elle agit dans la vie même d'un de ses fils, le fils qui est venu par accident. Dans le livre de Genèse, chapitre 21, verset 15, il est dit, « Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle, il s'agit ici de Agar, elle laissa l'enfant sous des arbrisseaux et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait, « Que je ne vois pas mourir mon enfant. » Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. J'ai dit de elle, il s'agit de Agar, celle avec qui Abraham a eu un enfant. Donc Ismaël, l'enfant dont il est question, c'est Ismaël. Genèse 21, verset 17 dit, « Dieu entendit la voix de l'enfant. » Je veux que vous remarquiez le verset 16. Je reprends le verset 16. « Elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. » Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Qui a pleuré? Qui pleurait? Maintenant, on arrive au verset 17. Lisons-le ensemble, verset 17. Dieu et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? C'est bizarre, non? C'est Agar qui pleure. C'est la voix de l'enfant qu'on entend. Agar, sa voix, on n'entend pas. Et c'est à cause de la voix de l'enfant, l'ange vient. Et puis maintenant, il dit, qu'as-tu, Agar? En fait, il n'a pas demandé à l'enfant, parce qu'en vérité, l'enfant ne pleurait pas. Amen. Il dit, Agar, qu'est-ce que tu as? Et il lui dit, on continue la lecture. Ne crains point. Dans le lieu où il est. Alléluia. Donc il dit à Agar, toi-même n'aie pas peur. Dieu va faire quelque chose, mais ce n'est pas à cause de toi. Parce que toi, si tu veux, tu peux pleurer dans le désert jusqu'à mourir. Ce n'est pas grave. Mais l'enfant, le fait de regarder sa mère en train de pleurer, a fait que Dieu a entendu l'enfant même qui se posait des questions. Mais pourquoi maman pleure? L'ange est descendu et il explique à Agar. Et juste après, ils vont recevoir de l'eau à boire. L'ange va ouvrir leurs yeux et ils verront un puits d'eau. Et l'enfant va être sauvé. Pourquoi cela? Nous sommes tous des humains. Agar est une humaine. Nous croyons tous en Dieu. Nous savons que Dieu ne fait pas de favoritisme. Entre guillemets. Parce que quand vous connaissez la lance de bénédiction, nous avons envie de dire que Dieu fait combine. Pas combine quoi. Il y a des gens à qui il tient particulièrement. Amen. Et donc il arrive, et là qu'est-ce qu'il voit? Ismaël était un enfant, il n'avait encore posé aucune action. On n'a jamais vu qu'Ismaël a fait quelque chose qui a touché Dieu. Mais c'est que Ismaël avait dans son sang, dans ses veines, le sang d'Abraham. Et lui, Abraham, il avait déclenché l'alliance de bénédiction. Donc, tout ce qui sortait de lui était spécialement et de manière privilégiée, protégée, garder. Alléluia. Donc, pour ne même pas que l'enfant se lamente, on sauve sa mère. Mais sa mère est encore plus loin de l'alliance. Et ça, Dieu l'a dit à Abraham. Et c'est quelque chose que vous avez. C'est-à-dire, parce que tu as cru en Jésus, Dieu a un œil spécial sur toi. Amen. Alléluia. Dieu déplace des anges, le système. Si tu as faim, lorsque il agit, si ton proche a faim, parce qu'il se trouve que vous avez un sang commun, Dieu va regarder le proche, il dit, pendant qu'il est en train de pleurer, Dieu va dire, j'ai entendu les pleurs de mon fils Bernard. Oh, Bernard n'est pas dans le quartier. Tu dis, mais pourquoi? Il dit, à cause de Bernard, je te sauve. Alléluia. Mais rends grâce à Dieu, tu as cette bénédiction. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. La faveur, la protection, la grâce de Dieu. Celui qui a la lance de bénédiction, il sent fermement, vraiment la faveur. On a dit le dimanche dernier, il a ce qu'on appelle, il possède la porte de ses ennemis. C'est-à-dire, ce sont des gens, des personnes. Quand tu les combats, ça te revient, mais tu te prends des coups inimaginables. C'est-à-dire, lui-même, il ne sait pas que tu le combats. Mais si tu as fait l'erreur de critiquer ce type de personne, amen, tu as des contre-coups qui te reviennent. C'est pourquoi il dit, je te donne la porte de tes ennemis. Ils viennent contre toi par un chemin, ils s'enfuient par sept chemins. C'est extraordinaire, cette alliance. Tu as une faveur privilégiée. Et il y a des hommes dans ce monde qui fonctionnent avec cela. Il y a malheureusement des chrétiens qui possèdent cette faveur, mais qui ne fonctionnent pas avec elle. Leur vie est beaucoup plus pénible. Quand les ennemis les attaquent, ils les atteignent presque. Ils peuvent même presque mourir. Mais Dieu, dans sa miséricorde, vient intervenir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su activer cette alliance. Ils la possèdent sans l'utiliser. Un peu comme si il y a une alarme chez toi, on te la donne, on dit, dès que tu appuies, toute l'armée est chez toi pour te protéger du danger. Et le danger arrive, tu ne l'actives pas, tu n'appuies pas le bouton. Les gens ne viendront pas. Les gens ne viendront pas. Tu peux avoir toutes choses, mais si tu n'actives pas, ça ne fonctionne pas. Et tu dois activer les choses. Alléluia. Alléluia. Alors, comment est-ce qu'on ressent ou on sent qu'on est au bord ou qu'on est prêt à activer ce type d'alliance? Amen. Donc, c'est dans votre vie spirituelle, dans votre marche de tous les jours, à un moment donné, Dieu va vous amener spirituellement parlant au niveau de ce qu'on appelle l'oasis 5. Donc, l'oasis de l'alliance. Et c'est-à-dire où Dieu va activer. Dans votre vie pratique, ça va se manifester par des problèmes ou des difficultés que vous avez vis-à-vis des choses auxquelles vous êtes attaché. Comme ça va se traduire l'épreuve. Par exemple, il y a quelque chose que tu aimes beaucoup. Cette chose-là, avant que tu vois la lance de bénédiction, peut être soumise à rude épreuve. Si tu es très attaché à ton enfant, tu, à un moment donné, peut beaucoup tomber malade. En fait, des choses que tu ne comprends pas. Si tu es attaché à ton entreprise, tu es attaché. Quand je parle d'attachement, parce que dans la vie, on doit être attaché à des choses. Mais je dis, de manière inconsciente, tu peux ne pas te rendre compte que tu es plus attaché à ton travail qu'à Dieu ou qu'à ta famille. L'attachement est relatif. Amen. Nous disons que nous aimons le Seigneur. Mais c'est quand Dieu sonde nos cœurs, quand nous, lorsque nous sommes confrontés à certaines choses, qu'on peut découvrir qui a la priorité de notre attachement. Et je vous ai dit dimanche dernier, comment est-ce que je discerne qui a la priorité de mon attachement? C'est que lorsque ce à quoi je suis le plus attaché est en difficulté, toutes les autres choses deviennent fades à mes yeux. Quelqu'un qui est plus attaché à son travail qu'à sa famille, si son travail a des problèmes, sa famille aussi aura des problèmes. Il va devenir coléreux, il parlera mal à ses enfants, à sa femme. Donc, il aime sa femme, mais inconsciemment, il ne se rendait pas compte qu'il aimait son travail plus que sa femme. Si par contre, il aime sa femme et son famille plus que son travail, c'est-à-dire qu'il est plus attaché à sa famille que son travail, quand son travail va prendre un coup, il sera triste. Mais il va trouver dans sa famille la force morale de se restaurer. C'est-à-dire en regardant ses enfants, en les prenant, en regardant son épouse, son conjoint, il a encore de l'espoir. Parce que sa source de bonheur, il l'attire de sa famille. Tandis que d'autres tirent leur source de bonheur de leur travail. Lorsqu'ils vont au travail, ils sont en mouvement, ils se sentent bien. Ils se sentent bien. Leur joie a pour source le travail. Si le travail est attaqué, tout le reste prend un coup. Donc ça montre un peu la relativité de ces attachements. Maintenant, ce n'est ni le foyer, ni le travail, ni les enfants, ni quoi que ce soit qui doit être la première chose à laquelle tu es attaché. La chose à laquelle tu dois, ou bien la personne à laquelle tu dois t'attacher en première position, c'est Dieu. C'est Dieu. Alléluia. Amen. Ça fait que quels que soient les coups de la vie, parce que Dieu, lui, il ne change pas, parce qu'il est bien, parce que tu peux avoir des problèmes de foyer, mais il n'y a pas de problème. Dieu est fidèle, il ne peut pas te trahir, il est fidèle. Tu auras toujours la force de retrouver ton travail, de restaurer ta famille, etc. Amen. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire ceci. Si quelqu'un vient à moi qu'il ne déteste pas, qu'il ne hait pas son fils, sa fille, sa femme, il n'est pas en train de dire d'avoir de la haine au sens littéral du mot, de les rejeter. Sans quoi ça viendra en contradiction avec le texte qui dit aime ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas cela que le Seigneur parle. Ce qu'il est en train de dire, c'est que la façon dont tu dois être attaché à Dieu doit être telle que entre l'attachement que tu as de Dieu et l'attachement que tu as de tes proches, il y a une distance qui ressemble même à du mépris. Mais ce n'est pas du mépris. Bien au contraire, quand tu es attaché à Dieu, tu as beaucoup plus de force de mieux aimer tes enfants, de mieux aimer ton conjoint, de bien aborder ton travail et de bien travailler dans la vie. Alléluia. 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 Amen. Et c'est cet attachement-là à Dieu qui va faire luire en toi ce qu'on appelle cette fameuse alliance de bénédiction. Dis avec moi encore, l'alliance de bénédiction. Donc l'alliance de bénédiction amène la gloire de Dieu à se manifester dans ta vie. Amen. L'alliance de bénédiction te donne une faveur d'instruction privilégiée. C'est-à-dire, quand tu es confronté à une situation dont tu ne connais pas la solution, tu vas recevoir de manière précise l'instruction de Dieu. Dieu va te parler. Dieu va te donner des solutions. Dans le psaume 25, verset 14, dit ceci. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Psaume 25, verset 14. On peut le lire ensemble. 1, 2, 3. Et pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Donc quand Dieu établit une alliance, l'alliance parle. L'alliance te donne des instructions. Un fils, Isaac, le fils d'Abraham. Par exemple, un jour, il arrive dans un endroit, les chefs terriens le combattent parce qu'il a creusé un puits qui a donné de l'eau. Et eux, ils n'arrivaient pas à avoir de l'eau. Ils l'ont combattu. Mais en même temps, il ressent qu'il doit laisser. Il laisse le puits, il va faire un autre. Et tout ce qu'il touche est béni. Les gens le combattent. C'est comme si à chaque moment, Dieu lui donnait une directive. Lorsqu'il y avait la famine, Dieu lui a dit, sème ici. Ceux qui ont développé la lance de bénédiction, c'est-à-dire qui réussissent leur cinquième oasis, qui entrent dans l'oasis. Parce que tu peux avoir l'épreuve 5, dont je parlerai tantôt. Et puis, contourner l'oasis. Au lieu d'entrer là-dedans pour t'abreuver, dis avec moi, j'entre dans mon oasis. Je possède, je jouis des faveurs de la cinquième oasis. Amen.